Salut à toutes et à tous, ardéchoises et choises éclairées. Vous êtes à l'écoute de L'Onde Curieuse, c'est le magazine d'infos local, loquace de Fréquence 7. Ce week-end, j'ai retrouvé dans un vieux porte-monnaie des lires italiennes avec leur fausse allure de pièces de 2 euros. J'ai aussi retrouvé une vieille pièce de 5 francs français, vous savez, la grande, belle, brillante qu'on aimait bien quand on était gosse, un billet de 1 dollar, 100 roupies indiennes. J'ai aussi cherché dans mon portefeuille numérique et je n'ai pas trouvé le moindre bitcoin, pas non plus de Solana, d'Ethereum, ni aucun crypto centime qui aurait pu m'offrir un café. Par contre, ce week-end, j'ai découvert la June, une monnaie un peu particulière dont le but ultime est de remplacer toutes les autres. On en parle dans un moment. Pour le moment, c'est l'heure de quelques infos locales. Demain, c'est jour de manif à Paris, oui, mais à Aubenas aussi. Alors attendez, dans ce cadre-là, j'avais un truc sous les yeux que je ne retrouve pas, mais qui est là. Voilà. Je voulais commencer avec une petite lecture. On m'a envoyé un rêve fait par Caro, aussi appelé Univers 43. Et c'est un rêve qu'elle a intitulé « Un esprit libre dans un corps dodu ». Alors, je commence, c'est une lecture, voilà. Dans mon rêve récent, je marche dans un cortège un jour de manifestation. Nous chantons calmement des slogans de liberté. L'atmosphère est douce. Comme chaque heure de chaque jour, je regarde le ciel. J'aperçois une chose étrange. Petit à petit, une ligne de lumière se dessine à travers l'horizon. Le ciel s'ouvre, il se déchire littéralement. C'est comme une naissance cosmique. Comme si l'atmosphère accouchait de la Terre, subissant une épisiotomie totale. Et est-ce de cette fissure que l'on voit en premier ? Est-ce que c'est ça qu'on voit en premier lorsque notre tête sort pour la première fois de sa poche amniotique ? Je manque d'air, je tente de tirer les manches de mes compagnons, mais personne ne semble y prêter attention. Le ciel est maintenant noir, rouge et orange. L'obscurité soudaine attire enfin l'œil des marcheurs qui enfin lèvent leur nez. Des amas de lumière apparaissent, de partout. Des flux d'énergie dansent dans tous les sens et traversent cette étrange nuit. C'est beau. C'est comme regarder des idées dans un cerveau, comme assister à l'afflux de vaisseaux sanguins fluo. Les jonctions et les points lumineux se font plus précis, brillant tous comme des petites supernovas, ces constellations d'étoiles vont jusqu'à former une grille de points symétriques et très bien alignées. La grille se penche jusqu'à être plate au-dessus de nos têtes et semble entourer la Terre. Et la seconde qui suit, pif, bam! Ces taches lumineuses se transforment en vaisseaux spatiaux de toutes les tailles, de toutes les formes, et flottent un instant interminable au-dessus de nos têtes stupéfaites. Autour de moi, personne ne semble bouger. J'en crie de stupeur et d'excitation. « Regardez, regardez » dis-je. « J'avais raison, j'avais... » Pas le temps de finir ma phrase, que nous voilà tous visés par des jets de feu de plusieurs kilomètres venant du ciel. Les projectiles tombent de partout, des flammes immenses brûlent tout autour de nous. Humains, commerces, rues, béton. Il me faut un temps pour comprendre que c'est une attaque. Pas un instant, je ne pense à une catastrophe naturelle. Alors je cours, si déçu, si choqué. Ma théorie où les aliens seraient nos amis prend feu. Toutes les vidéos sur les Orionais, les Pléiadiens, oh, ça doit pas être eux, c'est pas possible, pensais-je tout en continuant de courir. On te tire dessus, petite, réveille-toi, bien sûr que c'est possible. Cours, cours, abrite-toi sous quelque chose. Une table, une table, une table. Je me glisse dessous. Ce que je vois est impressionnant. Les gens hurlent, courent, meurent, flambent. Certains pillent les supermarchés. Les forces de l'ordre, mobilisées à l'origine pour cadrer une manifestation ordinaire, essayent tant bien que mal de gérer un chaos qui les dépasse complètement. L'ordre n'est plus, les amis. Je vois certains des policiers être en état d'éveil. La plupart aident les manifestants. C'est assez nouveau pour eux. D'autres tentent vainement d'éviter les pillages. Ils ne sont plus que des humains comme tous les autres. Le pouvoir n'a plus sa place. Autour de la table qui m'abrite et qui me cache parfaitement, je vois apparaître des jambes vertes d'OVNI et d'autres de certains dirigeants. Je reconnais les jambes d'Emmanuel Macron. Ils décident d'avoir une réunion au-dessus de ma tête et je comprends leur langue. Les esprits libres sont dans les montagnes. C'est eux qu'il faut viser en premier. Eux seuls peuvent ne pas être atteints. Je panique et je pense à Robert, le berger éveillé. Je pense à mon rocher. Je me retiens de crier, de pleurer, d'avoir peur. J'avais donc raison. La nature est la clé. Les cabanes sont des temples. Les montagnes des refuges où l'être respire enfin. Je dois les prévenir. Je dois y retourner. Mais D'un coup, me voilà propulsé dans un autre espace-temps, je suis sur mon lit, devant mon écran de téléphone, à mater du porno et toute vidéo susceptible de vider mon esprit. J'ai besoin de ne plus penser, d'être un zombie accro. Tous les gens de la ville font de même. Nous sommes comme lobotomisés, endormis, anesthésiés. Nous passons des écrans aux files d'attente, des tonnes de files d'attente, pour consommer dans les supermarchés. Je ressens une forte envie, une envie de partir du centre commercial. Mais une petite voix me remet dans la file si je n'ai rien acheté. Et tout cela, sans fin. On me bouscule. Je me réveille. J'ai la sensation que désormais, ma pensée m'appartient. Que mon seul maître, c'est moi. Était-ce le passé, le futur, le présent ? Demain, les manifestations commencent. Nous verrons cela. Voilà, c'était un texte de Caro, dit Univers 43. Et donc demain, c'est jour de manifestation à Paris, oui, mais à Aubenas aussi. Et on ne sait pas trop si on aura un débarquement d'ovnis venu pour tout casser. Mais je voulais vous dire que les efforts des militants ici pour animer les cortèges, aviver la flamme de la contestation, raviver le brasier de la colère, sont multiples. Demain, mardi, à partir de midi, vous êtes invités à faire un pied de nez au McDonald's d'Aubenas. Derrière l'enseigne McDo, on le sait, se cache l'exploitation agro-industrielle, un certain sens du greenwashing, puisqu'il nous présente cette semaine des chips de légumes en termes de santé publique, les méthodes dures de management avec des emplois précaires, des CDI sans avantage. Demain, midi, une équipe de cantiniers slow food vous convie pour savourer un excellent burger entièrement fait maison, pain, steak, sauce, frites, tout fait maison sur le rond-point du Domac. Pour montrer à toutes et à tous qu'on peut manger sain, fin et bien gras en limitant la pollution. Rendez-vous donc à partir de midi pour un happening pas ordinaire avec nez rouge et autres festivités. Juste avant la manif, les syndicats appellent à un rendez-vous à 14h au rond-point de Ponson habituel. Et sinon... Sinon, qu'est-ce qui se passe autour d'ici dans le cadre de l'expo sur les fausses nouvelles visibles à la médiathèque Jacques Dupin du 31 mars au 29 avril, un concours de photos est organisé sur le thème « J'y crois, j'y crois pas ». L'objectif, c'est de changer le sens d'une photo en jouant sur son recadrage et sa légende pour renforcer son interprétation. Donc, comment participer ? Il faut prendre une photo, écrire une phrase pour indiquer son contexte, recadrer la photo, inventer une légende qui change son sens et envoyer les deux photos légendées à la médiathèque avant le 27 avril. Les photos seront publiées sur la page Facebook de la médiathèque le 28, le vendredi. Les internautes pourront voter. Il sera aussi possible de voir les photos et de voter sur place dans le hall. Le vote sera clôturé le samedi 29 à 16h30. Et la remise des prix aura lieu à 16h30, samedi 29 avril, à la médiathèque. À vos appareils photo, donc, pour ce concours de photos. Ensuite, j'ai appris ce matin que les salariés de la CAF de l'Ardèche se sont lancés dans un challenge sur la mobilité et la mobilité douce. C'est la fête de la mobilité solidaire à la CAF. Donc par équipe et via une application mobile, ils doivent cumuler le plus grand nombre de points en marchant et en réalisant des défis autour de la mobilité douce. Donc j'imagine bien la tête des rendez-vous quand on se pointe à la CAF en ce moment avec tout le monde, le mec derrière son bureau qui fait les 100 pas pour gagner des points. Voilà, ça c'est une petite brève. La semaine prochaine, c'est aussi le lancement de la saison 2023 des rendez-vous du PNR des Monts d'Ardèche autour du thème « L'eau, une ressource à préserver et à partager ». Donc Fréquence 7 sera là-bas également, c'est jeudi 6 avril à 16h à la Maison du Parc à Jaujac, avec présentation de la saison printanière et estivale, des animations du parc avec les rendez-vous géologiques, les rendez-vous biotrésors, la nouvelle œuvre du coup créée du partage des eaux et les échappées, le programme des Monts de Demain, donc à 18h, les Monts de Demain avec une conférence quel climat, quelles ressources en eau, quelles rivières et quels usages sur le bassin versant de l'Ardèche à l'horizon 2050. Quel horizon 2050, ça nous laisse le temps de voir venir. Je pense que 2030 serait déjà bien changé par rapport à aujourd'hui. C'est en présence de Jean Pascal, qui est président du CEBA, et de Simon Laloze de l'EPTB Ardèche. Trop d'eau, pas d'eau, les extrêmes climatiques dans le bassin méditerranéen. Rencontre avec Thierry Ruff, chercheur émérite à l'IRD et président du conseil scientifique du parc. L'entrée est libre. Soyez nombreuses et nombreux jeudi 6 avril à la Maison du Parc à Jaujac. Cette semaine également, c'est jeudi, non, vendredi le 31, le forum de l'emploi saisonnier à la salle des fêtes de Vallon-Pont-d'Arc. Si vous souhaitez travailler cette année dans le tourisme, rendez-vous de 10h à 16h pour rencontrer les professionnels du secteur, camping, restauration, animation, commerce. Donc à la salle des fêtes de Vallon-Pont-d'Arc le vendredi 31, plus d'infos au 04 75 88 17 44. Ensuite, ce dimanche 2 avril, c'est la première édition des jardins de la radio, des journées et apéritifs dans le jardin de la radio. C'est un brunch musical avec une sortie de résidence d'artistes, artistes visuels, performeuses, musiciennes, ainsi qu'un concert de Robin Tripp and the Oysters. Restez à l'écoute de Fréquence 7 pour plus d'infos toute la semaine sur ce rendez-vous de dimanche. On vous concocte un sacré programme pour une journée ensoleillée tous ensemble et le lancement du printemps. Enfin, dernier événement annoncé pour aujourd'hui, c'est ce jeudi 30 mars au théâtre de Vals-les-Bains, un concert de La Chica, une artiste franco-vénézuélienne bien perchée et riche de talent, que l'on écoute tout de suite. Et voilà, c'était La Chica avec Be Able. Du coup, La Chica, donc le refrain de la fin là, c'est on peut commencer à être soi quand on se lève pour le devenir. Donc c'est un morceau pour se souvenir que tout est possible pour peu que l'on s'en donne les moyens. À ce sujet des moyens, j'avais prévu aujourd'hui de parler des moyens financiers de s'émanciper un peu du système actuel. C'était le sujet prévu ce midi, du coup un sujet sur la June, une monnaie libre qui est née, la première monnaie libre qui est née en France en 2017 et qui tenait un marché du coup dédié aux artefacts et aux échanges en June. Ça se déroulait sur la terrasse de l'accueil à Ribes et j'avais prévu d'inviter du coup une personne, enfin j'avais invité une personne qui finalement a annulé en dernière minute et n'a pas pu être ici à l'heure. Donc c'est un entretien qui est reporté à propos de la June. Du coup c'est super intéressant parce que je vous en dis trois mots. C'est une monnaie libre, c'est-à-dire que la création monétaire se fait spontanément en fonction des membres. C'est-à-dire que quand vous adhérez au réseau June, c'est une blockchain qui régit la création de monnaie. Donc chaque personne génère automatiquement 10 June tous les jours. Ça limite la capitalisation parce que si vous accumulez des June à force d'être membre du réseau, la valeur de votre portefeuille final diminue au fur et à mesure qu'augmente la somme totale du portefeuille. Voilà, je peux pas vous expliquer beaucoup plus précisément de quoi il en retourne. On en reparle dans une onde curieuse un de ces jours. En attendant, heureusement, j'avais rencontré il y a quelques semaines une série d'adolescents pour nos premiers ateliers de radio. Donc Fréquence 7 commence à organiser des ateliers en périscolaire de radio, donc création radiophonique. Là, cette fois, c'était les élèves les ados du club ado de Saint-Étienne-de-Luc-d'Arès. Ils étaient quatre, on s'est rencontrés un samedi et on a réalisé un micro-trottoir sur le thème des contes et légendes. Je vous laisse avec les ados. Vous allez voir, ils ont tout fait eux-mêmes, ils sont super calés. Les contes et les légendes du plateau Ardéchois, une émission Fréquence 7 avec le club ado de Saint-Étienne-de-Luc-d'Arès.
À Saint-Étienne-de-Luc-d'Arès, dans notre village perché sur le plateau Ardéchois, les légendes courent les rues.
Partout, jusque sur la fontaine de la place du village, on retrouve les traces de la bête du Gévaudan qui a semé la terreur dans la région au XVIIIe siècle.
En face de notre studio de radio, la maison de naissance d'Henri Charrière, surnommé Papillon, condamné au bagne et qui a su s'en échapper.
Qu'une seule fois ?
Deux fois, mais la deuxième fois était la bonne. Avec son talent pour s'envoler des prisons, il aurait pu s'appeler aussi Libellule ou Anétone, mais c'est un papillon.
À quelques kilomètres, l'auberge rouge où les voyageurs qui s'arrêtaient disparaissaient, détroussés et assassinés par les propriétaires.
On dit même que c'était le secret de leur plat du jour, de la viande saignante au goût de gibier.
Enfin, il y a Gargantua le géant, qui est passé par tous les départements de France, mais qui aurait bu le lac d'Issarlès un jour de grande soif.
Les légendes traversent les temps et les gens. Tout le monde a sa petite histoire.
Aujourd'hui, nous sommes allés demander à des personnes dans le village leur version de chacune de ces légendes.
Parfois, les témoignages coïncident. D'autres fois, chacun propose une version bien personnelle de l'histoire.
Pour collecter les informations, on s'est réparti en deux groupes de deux. Le premier groupe composé de Robin et Duncan, et le deuxième groupe composé de Luca et Charlie.
Pour la bête du Gévaudan, on pensait que c'est un loup ou un chien ?
Alors, à en croire la légende, c'était... C'était plutôt un loup. Hein.
C'est un chien.
C'est un croisement entre les chiens de la reine et peut-être bien le loup.
Je pense que c'est un loup, un croisement peut-être. Certaines rumeurs disent que c'est une hyène venue d'Afrique. D'autres disent que c'était un homme qui se déguisait en loup. Donc la légende elle est vaste, les histoires sont vastes et je peux pas savoir la vérité, j'étais pas là à l'époque.
Combien de victimes a-t-elle fait ?
Deux. Je ne sais pas, mais peut-être 50.
Selon Internet, elle en a fait, je crois, si mes souvenirs sont bons, c'est 400 attaques, je pense, aux alentours de 400 attaques. Après, en victimes, je pense qu'elle a fait une centaine de victimes, je crois, au total.
Et à votre avis, la bête, elle faisait quoi comme cri?
Il faut que je refasse le cri. Je sais pas, j'y arrive pas. Non, c'est pas tout à fait ça, mais j'y arrive pas.
Peut-être qu'on était pas là pour vérifier le plus. T'as ici. Vas-y, tous ensemble.
Je pense que c'était plus des mythes, ouais. Je sais pas. J'étais pas né, alors j'ai pas pu le croiser. Mais c'était terrifiant quand même. Au point qu'on en a même une fontaine dans le village, dans la boulangerie.
Une autre légende locale, c'est Papillon, natif du village. Voyons voir ce qu'en disent les habitants.
Papillon, vous le connaissiez ?
Non.
Pas personnellement ?
Non.
J'imagine. Oui.
Eh ben, en fait, Papillon, je connaissais le film avant avec Steve McQueen. Et du coup, je connaissais quelqu'un qui travaillait avec moi qui a écrit un livre sur Papillon. Et j'ai lu son livre et je trouvais que c'était une histoire d'Ardéchois. Donc, je l'ai lu avec grand plaisir.
Alors, Papillon, moi, j'ai découvert son histoire en venant sur Saint-Étienne-de-Lugdarès. Parce que j'ai entendu parler de lui, du fait que c'est quand même un personnage mythique. Et j'ai des collègues, quand je leur ai dit que j'habitais le village où était né Papillon, eux, ils connaissaient le film, la version américaine de Steve McQueen des années 70. Quand je leur ai dit il est né en Ardèche, ils n'en revenaient pas. Et c'est vrai que c'est quand même puissant de se dire que... Il y a beaucoup de monde qui a entendu parler, principalement par rapport au film, mais il y en a qui ont du mal à croire que c'est une histoire vraie. Et quand on sait qu'il est né dans le village, c'est quand même vraiment sympa. Ouais.
Je connais un peu son histoire, après beaucoup mieux, je dirais. Je connais son histoire. Je connais même les petites anecdotes du village.
Et est-ce qu'il était coupable à votre avis ?
Je pense pas. Enfin, coupable dans le sens de la rixe, oui, mais d'avoir tué celui pour lequel il a été accusé, je pense pas.
Je pense que peut-être au départ, on l'a accusé de quelque chose qui ne méritait pas une sanction aussi grave. Je pense qu'il y a eu un vol et qu'il n'était pas forcément coupable du meurtre et qu'après, ça s'est enchaîné. Qu'on l'accusait sûrement à tort.
Ah bah s'il a été emprisonné, c'est pour des raisons, je pense que c'était justifié. Il y a eu des faits, oui, c'était un cambrioleur quand même, donc pour certains faits, il était coupable. Après effectivement, d'après l'histoire, il a été victime d'une machination et...
Vous pourriez nous raconter son histoire, l'histoire de l'évasion.
Ah ben déjà, il y a plusieurs évasions, donc il n'y a pas qu'une évasion. Donc je pense que c'est le seul prisonnier qui est arrivé à s'évader de prison, surtout celle qui était située sur une île, où potentiellement personne n'avait réussi à s'évader, et que parce que c'était quelqu'un de très intelligent, qui a réussi à s'évader. Alors... la manière, je vais raconter la manière du film Papillon des années 70, où il arrive à s'évader avec un système de bouées fait artisanalement, et puis qu'il arrive à s'évader. Donc je pense que c'était à l'époque exceptionnel d'arriver à s'évader de cette façon-là, parce que personne ne l'avait fait, on l'avait isolé, et que c'était... voilà, c'est ce que je retiens de cette aventure, c'est ça. Qui arrive à s'évader sur une île où personne n'avait réussi à s'évader.
Alors l'évasion, il y en a eu deux déjà. Donc il a traversé la forêt amazonienne parce qu'il était en prison en Guyane. Mais après, je crois qu'il s'est fait rechoper et il est parti sur un radeau, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça, de mémoire. Mais du coup, c'est une histoire quand même assez dantesque pour un Ardéchois quand même. Il a une vie folle, quoi. Il a fini sa vie au Nicaragua. Et après, il est enterré, par contre, en Ardèche, à la NAS.
Donc, il était à Cayenne et il a réussi à s'échapper et à traverser la mer.
Il avait pris le temps de regarder par rapport aux courants, les courants d'air chaud et tout ça, pour voir comment il pouvait sauter du rocher. Ouais. Et...
Je crois que c'était la dernière, c'était la toute dernière prison qui était censée être inviolable, enfin infranchissable. Et, ouais. Mais je connais pas tout.
Il s'est évadé en hélicoptère. Et son collègue, il est venu au-dessus de la prison pendant qu'il était en balade. Il a lâché une corde et lui, il a grimpé. Voilà, ils sont partis.
D'après vous, pourquoi on sort dans le papillon et pas libellule ?
Un papillon, c'est masculin, une libellule, c'est féminin.
Pourquoi papillon et pas libellule ?
Les papillons libérés, mais pas le libellule. Parce qu'il a un tatouage de papillon sur son bras.
Et de pouvoir... ouais, je sais pas exactement pourquoi papillon. Je crois que j'étais fait un tatouage. Mais est-ce que ça venait du fait aussi que bah, il était insaisissable? Parce que chaque fois qu'il se faisait enfermer, bah, il arrivait à s'évader.
Pourquoi papillon et pas libellule?
Parce qu'il avait un tatouage de papillon sur le torse.
D'accord.
C'est son surnom.
Quelques kilomètres plus loin, c'est à l'auberge Père Beille, dite l'auberge rouge, que se sont déroulés des faits divers sanglants il y a plus d'un siècle.
Nous avons rencontré au bar Mathéo, qui nous a raconté la légende de l'auberge rouge, avec ses arguments à lui.
Ouais, non, mais pour moi, l'auberge Père Beille, c'est pas si loin, je crois que c'est en dessous de Luc, non ? Et ouais, bah c'est alors, l'époque, il me semble, c'était 20e siècle. Et ouais, grosso modo, l'auberge était faite sur deux étages. Et grosso modo, l'accès aux chambres, il s'était fait en sorte qu'il y avait un chip, le propriétaire, il me semble, qui se calait sur une espèce de petit plancher et qui a suqué les gens et qui butait les gens. En gros, à chaque fois qu'il montait, et il les dépouillait et il jetait les corps. Je sais pas, il me semble qu'il jetait les corps à la cave. Il y avait une histoire comme ça. Et voilà, et c'est le vrai du faux.
Alors, c'est des gens, ils ont un hôtel, une auberge. Et à chaque fois qu'il y avait des gens un peu riches et tout qui venaient dormir là-bas, et bien, ils les tuaient pendant leur sommeil. Ils volaient toutes leurs affaires et ils les donnaient à manger aux cochons.
L'histoire, c'est voilà, il y avait des voyageurs. Ils s'arrêtaient sur l'auberge rouge, parce qu'à l'époque, à la Nars, il n'y avait rien. Il y avait une auberge au milieu de nulle part, donc ils n'avaient pas le choix. Ils étaient dans l'obligation de s'arrêter là pour la nuit. Et les gens qui rentraient dans cette auberge ne sortaient jamais, parce qu'ils étaient dépouillés, tués et enterrés. Voilà.
Donc les voyageurs arrivaient à l'auberge de Peyrebel, ou dite l'auberge rouge. Et puis, quand ils s'installaient là, ben, ils étaient dévalisés, dépossédés de leurs biens, de ce qu'ils avaient sur eux. Et il y a des gens qui les tuaient et qui les mettaient dans la cave en bas.
D'après vous, c'est vrai ou pas ?
Oui.
D'après vous, où est l'argent qu'ils voulaient aux voyageurs ?
Ah, ben, ils s'en sont servis. C'était des petites sommes, je pense.
Ben, Mago, oui, non, à mon avis, ils ont fait en sorte que ce soit bien récupéré, quoi. Enfin, les gens qui ont dû servir ont dû déjà se servir, quoi. Je pense pas qu'il y ait vraiment un petit trésor caché là-bas. Après, ça mériterait peut-être de fouiller, mais...
Le Mago, oh, ben, je pense que le Mago, ils ont dépensé au fur et à mesure. Il n'y a jamais eu de Mago. Il prenait, il dépouillait et il dépensait. Voilà, donc pas d'économie possible, je pense pas.
À mon avis, il y en a beaucoup qui l'ont cherché. Non, je sais pas. Il n'est pas chez moi, dis-moi.
Je sais pas. Pas en Ardèche, en tout cas, ça se saurait.
Sans doute.
Si vous allez à l'auberge, vous croirez quoi comme plat ?
Un plat ordinaire, comme dans tous les restaurants.
Une tête de veau.
Et vous prendrez quoi au plat du jour ?
Steak haché et frites.
D'accord. Et une tourte à Dédé, ça vous tente pas ?
Non, ça ira.
D'accord.
C'est piège ça, non? Ouais, soit du saignant, soit, je sais pas moi, du cœur ou du poumon.
Sur place, je pense que je prendrai pas de plat du jour, j'irai pas. Je passerai mon chemin.
Même pas la tourte à Dédé?
Non.
Enfin, nous avons interrogé les gens sur le géant Gargantua, qui a traversé la France et semé des légendes partout où il passait. Mais ici, quand on leur demande s'ils connaissent Gargantua, la réponse est souvent...
Non, j'ai rien à dire du tout. Je vois pas du tout ce qu'il faut dans le pays.
Disons que c'est quelqu'un de gentil... Enfin, je sais pas. De gentil, mais qui avait une grosse faim. Sa pointure ?
Il est descendu là ou...
Je sais pas du tout.
48.
Énorme.
Son menu préféré.
Des enfants.
Alors, pourquoi on parle de Gargantua? Parce que je ne sais pas si vous étiez au courant, mais à Nosac, eh bien, y a une petite terre rouge. Et donc, la légende, c'est que Gargantua aurait saigné du nez à cet endroit-là, et c'est pour ça que la terre est rouge.
D'accord.
Et en fait, on a fait des petites recherches et on a vu que toutes les régions de France se sont un petit peu appropriées l'histoire de Gargantua. Donc, l'Ardèche et la Haute-Loire.
D'accord.
Et la Lozère.
Le nom prochaine légende? Celle de Gargantua.
Ah, ça je connais pas.
C'est un géant, non?
Ah, ouais.
Malo, vas-y. Malo.
Après, je sais qu'à Roche-Sauve, il y a le rocher qui s'appelle le rocher de Gargantua.
Nous, on habite à Roche-Sauve, c'est un petit village d'Ardèche. Et en fait, dans notre quartier, qui s'appelle le quartier du château, il y a un gros rocher. Et on dit que c'est le rocher de Gargantua parce qu'en fait, Gargantua se promenait. Et il avait un caillou dans sa chaussure. Et du coup, ce caillou l'a gêné, il l'a jeté. Et du coup, c'est pour ça que dans ce quartier, il y a un énorme caillou avec une forme bien particulière au milieu du quartier. Vu la taille du caillou, la pointure, ça doit être au moins du 1000.
Comme nous avons pu l'entendre, les mythes et légendes de Saint-Étienne-de-Lugdarès et des alentours sont racontés différemment. Selon les témoignages des habitants du village, il est intéressant de constater que malgré les différentes versions, les gens interviewés, tout le monde connaît au moins un peu les légendes locales.
Quand j'ai compris que j'habitais sur une zone, et puis là maintenant en arrivant sur Saint-Étienne-de-Lugdarès, il y a Papillon, il y a la bête du Gévaudan, il y a Père Bey, ouais ça va, la zone est bien cernée quoi. Mais ouais, si, c'est bien, il y a des histoires sur le pays. C'est super, quoi. C'est super. Je suis sûr qu'il y a plein d'endroits en France où il n'y a rien à raconter. Ben, ici, il y en a des choses à raconter.
Ah, je pense qu'il y a toujours un fond de vérité. Après, forcément, on va dire qu'il y a des petites histoires ou des petites anecdotes qui sont peut-être ajoutées, mais la base de l'histoire, elle est réelle.
Et nous leur avons aussi demandé de faire une petite histoire avec les quatre légendes mélangées.
Si vous devez faire une légende combinant toutes ces histoires, ce serait quoi?
Alors c'est Gargantua, il a un loup, donc on l'appelle la bête du Gévaudan. Il a un collègue, c'est un mec qu'on appelle Papillon. Et ils vivent tous dans une auberge qui s'appelle l'Auberge Rouge.
Donc ça pourrait être... Papillon qui a croisé la bête du Gévaudan et qui a réussi à s'échapper, à s'évader, d'où le tatouage de Papillon pour s'envoler vers d'autres cieux. Et puis voilà, il a réussi en mangeant comme un ogre, comme Gargantua, à se tirer d'affaire et à s'en. À s'épargner des griffes de la bête.
Du coup, ça va être un tueur en série qui dévore ses proies mais qui arrive à s'évader. Et qui arrive pas, même s'il se fait choper, il arrive à s'évader. Ça va être ça surtout.
Ah, on peut toujours. Ah ouais, moi je suis imaginatif. Hein, je peux éventuellement dire que Gargantua tenait l'auberge rouge et qu'il y avait un chien dressé et qui s'est évadé de nombreuses prisons. Voilà.
Il y a un chien volant qui s'est échappé d'une auberge. Et dans cette auberge, il y avait des cannibales. Ils détroussaient des voyageurs. Et les enfermaient dans un four à bois. Qui se sont fait arrêter par un géant.
Emprisonné en Guyane. Il s'est échappé. Et il allait se réfugier dans une auberge.
Les contes et les légendes ont la vie dure. Ils traversent les âges, sont transformés, se mélangent les pinceaux et parfois terminent sans queue ni tête.
Nous avons continué d'interviewer des habitants du village et nous avons croisé Tête de Veau
qui a, bien gentiment, accepté de répondre à nos questions.
Un gros ogre et il mangeait tous les enfants du village. Là, le nombre de victimes est énorme, je crois que ça dépasse la centaine.
Ah ouais.
Ouais. 204.
Et son menu préféré, à votre avis?
C'est caché, c'est... Mais je vais pas l'affirmer. Je suis pas assez bon en histoire.
Et une tourte à Dédé, ça vous tente pas?
Non, c'est vrai.
D'accord. Alors la fin de l'histoire, bah, c'est y a eu deux fins. Hein. Y a eu la première fin où ils avaient abattu un gros loup, mais en fait y a encore eu des victimes derrière. Et après ils ont abattu de nouveau un autre loup, je pense. Et puis là ça a cessé. Mais y a eu aussi, je pense à l'époque, la fin de l'histoire aussi avec un homme, apparemment un noble du coin qui avait un fils un peu perturbé et qui potentiellement a fait des bêtises aussi. Voilà.
Et voilà, ça se termine sur le dernier cri de la bête du Gévaudan, supposée et déformée par les ados. Donc c'est une émission entièrement réalisée par les 4 ados du club ado de Saint-Étienne-de-Lugdarès qui étaient présents ce samedi. Donc Fréquence 7 commence sa saison printanière en organisant des ateliers de radio. C'est ouvert à tous les jeunes de 10 à 18 ans. Vous pouvez nous contacter pour plus d'informations si vous voulez nous faire déplacer dans votre village ou dans votre club adolescent. Merci à eux, merci Sylvain d'avoir assuré cette diffusion en dernière minute. C'est le début de la fin de cette émission de Fréquence 7. Je vous rappelle la suite du programme pour ce lundi. À 13h, c'est l'émission Les Jardins Suspendus. À 15h, c'est le Telex. Vos messages donc sur notre répondeur dédié au 04 75 93 30 25. Ouf. À 17h, la rediffusion de L'Onde Curieuse. À 18h, la rediffusion de Solidaires d'abord. À 20h, vous retrouverez le quatrième épisode des Bonnes Ondes de la SMAC 07. Et à 21h, Hexagone Jazz & B, qui vous présente cette semaine Georges Arvanitas, le pianiste, qui a investi les studios ONB avec Jackie Samson à la contrebasse, Charles Saudret à la batterie. Ensemble, ils rendent hommage au grand maître du jazz. Donc une émission à découvrir à 21h avec DJ Steph ce soir. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous...
Juste.
Oui, pardon.
C'est pas la quatrième édition des Bonnes Ondes de la SMAC, c'est parce que c'est tous les quatrièmes lundis du mois. Qu'on retrouve les Bonnes Ondes de la SMAC.
D'accord, ouais, merci. Ok, donc c'est pas la quatrième édition, c'est pas parce qu'ils sont en classe de quatrième, c'est les quatrièmes lundis du mois, donc ça tombe... Et bah aujourd'hui, c'est parfait. Donc rendez-vous donc à 20h pour les Bonnes Ondes de la SMAC 07. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente après-midi. N'oubliez pas ce rendez-vous culinaire demain à partir de midi sur le rond-point du McDo où on vous invite à déguster un burger entièrement fait maison. Les bénéfices de cette cantine iront aux caisses de grève et de solidarité. À très bientôt et bel après-midi.